BFM Business, l'heure H, la question du jour.
A-t-il raison d'être fier, très fier de la gestion de l'État pour sur la crise du Covid-19? Arnaud Benedetti, merci d'être là. Vous dites, c'est un storytelling, en fait, le chef de l'État fait un storytelling de l'action publique, mais qu'en même temps, on peut quand même s'interroger en disant, est-ce qu'il a raison ou pas? D'abord, sur l'intervention elle-même.
Oh, c'était une intervention sobre qui se voulait factuelle et qui en effet a essayé de dresser, si vous voulez, le portrait d'une action publique qui a triomphé du virus. Il a dit que l'État avait pris les bonnes décisions, que les services de l'État avaient résisté à l'épreuve, que les Français avaient fait preuve d'un très grand sens des responsabilités et que nous étions progressivement sortis de cette crise sanitaire. On voyait bien que le président de la République aussi venait poser sa parole publique après de longues semaines de silence et une omniprésence, faut-il le rappeler, du Premier ministre dont l'expression publique avait plutôt rencontré l'adhésion des Français. Donc c'était un président de la République qui se positionnait dans une séquence sanitaire où il donnait une sorte de clap de fin, si vous voulez, à la crise que nous avons traversée, mais qui venait aussi, d'une certaine manière, récupérer la mise ou la manne d'un éventuel succès dans l'action publique telle qu'elle avait été déclinée, peut-être pour se repositionner par rapport à son Premier ministre aussi.
Oui, ben, sans doute. Alors, hier, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu des choses où il a vraiment affirmé et en même temps, il est resté assez vague sur la reconstruction de la France. Vous me direz, ça ne se dessine pas dans un claquement de doigts. Il a utilisé des mots assez forts. La reconstruction, ça fait plutôt référence à l'après-guerre. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant dans ce chemin vers lequel il veut nous emmener, sachant qu'on saura un peu tout, donc avant le 14 juillet, a priori?
Oui, alors de toutes les manières, compte tenu, si vous voulez, du timing de son intervention, qui était un timing à la fois entre la fin du déconfinement et le second tour des élections municipales et un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement qui est quand même assez important sur la suite à donner au plan européen, il avait une fenêtre de tir qui était une fenêtre de tir assez délicate. Il ne pouvait pas, en effet, tenir un discours d'une très grande granularité, d'une très grande précision. Il était, disons, contraint par son timing et il était contraint surtout d'affirmer un certain nombre de principes. En fait, on a eu un président de la République qui a beaucoup triangulé durant cette intervention. Il a triangulé du côté des souverainistes en rappelant qu'il fallait une économie indépendante. Il a triangulé
et souveraine.
Il a triangulé du côté des Verts en rappelant qu'il fallait une économie verte. Il a même triangulé du côté de sociaux-démocrates en rappelant qu'il fallait que l'économie soit solidaire. Et il a triangulé à la faveur des mobilisations contre les violences policières également, vers une droite républicaine et une gauche républicaine très attachée à une idée universaliste de la citoyenneté. Donc c'est un président qui a conservé son logiciel quand même politique. Clairement, il a rappelé que l'esprit de réforme qui avait animé son action depuis 3 ans était quelque chose d'absolument essentiel pour la remise en marche du pays. Il a rappelé l'engagement européen et il a glissé quelques clins d'œil à certaines clientèles politiques ou clientèles idéologique, peu importe comment on les appelle, qui permettent finalement de renforcer ou d'élargir plutôt son en même temps.
Est-ce que quelque part, donc, si j'entends bien ce que vous nous dites, hier il a fait un peu des appels du pied au sein de la classe politique française, peut-être en vue de son prochain remaniement, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer?
Il a bien évidemment pas abordé la question de ce que serait son ingénierie politique après les élections municipales. Il ne pouvait pas le faire en raison des élections municipales. Il a voulu, en tout cas, très nettement montrer que il avait compris un certain nombre de choses suite à cette crise. Donc il a voulu faire évoluer son logiciel politique sans renier ce logiciel, mais encore une fois, en essayant d'agréger dans sa doctrine politique des éléments qui jusqu'à présent n'y étaient pas. Alors, l'élément écologique, il y était en tout cas dans le discours, insuffisamment aux yeux des Verts, mais il y était.
Ah, il y était,
l'élément souverainiste n'y était pas vraiment, même s'il a souvent parlé de souveraineté européenne, et même l'élément concernant le social et la solidarité. C'est un président dont on a très souvent critiqué une forme d'indifférence sociale, à tort ou à raison. Donc il a essayé en tout cas de bâtir quelque chose qui relève plus, j'allais dire, que d'une question de remaniement, relève plus éventuellement d'une stratégie électorale en vue de 2022.
Oui, en tous les cas, c'est clair qu'il a dit dans les deux prochaines années, je continuerai à réformer, quitte, on verra ensuite. Juste, moi, c'est un discours que, ici à BFM Business, on a très bien entendu, dans le sens priorité à l'activité économique, il faut reprendre, c'est la fin du déconfinement, on a gagné la bataille, enfin la première bataille contre le virus. Est-ce que vous dites pas, Arnaud Benedetti, est-ce qu'il a parlé aux Français?
Mais c'est toute la difficulté. Si vous voulez, aujourd'hui, la parole présidentielle, encore plus à l'occasion de cette crise, d'abord, elle a été assez volumineuse. Il a beaucoup parlé, le président de la République, même si ces dernières semaines, il était plutôt silencieux. Donc, d'une certaine façon, il a quand même un peu banalisé sa parole. Et vous savez, il y a un principe qui était un vieux principe que Jacques Pilan, lorsqu'il était conseiller de François Mitterrand et de Jacques Chirac, avait établi, c'est que la parole du monarque républicain, ça doit être une parole qui doit être rare pour qu'elle soit entendue et performative. Là, en l'occurrence, Emmanuel Macron a une parole qui a perdu de sa performativité vraisemblablement parce qu'il s'est quand même beaucoup exprimé, ces trois dernières années. On l'a beaucoup vu, beaucoup entendu. Et en contraste, il a eu un Premier ministre qui, lui, a eu une parole durant cette crise qui est apparue comme une parole parfois plus rassurante parce que plus sobre que celle du Premier ministre. Donc il y avait quand même, dans l'exercice qui était celui d'hier, la volonté quand même de la part du chef de l'État de rééquilibrer sa communication par rapport à celle de son chef de gouvernement.
Et du reste, il a fait un tout petit peu moins de 20 minutes. Donc c'est dire que ça a été court pour Emmanuel Macron.
Oui, c'est un format beaucoup plus court que les formats auxquels il nous a indéniablement habitués. Il y a eu quand même un point qui me paraît assez intéressant, c'est qu'il a cité sa volonté d'établir une nouvelle méthode de gouvernement. Il l'avait déjà fait à la suite, souvenez-vous, de la crise des Gilets jaunes, mais en associant par exemple le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil économique et social environnemental, dans la production de la politique de reconstruction. Donc c'est un président de la République qui, en creux, a voulu reconnaître que peut-être la méthode qu'il avait utilisée ces dernières années était une méthode insuffisamment collaborative, si je puis dire, ou insuffisamment dans la concertation. Mais il y a quelqu'un qu'il n'a pas du tout cité. Vous l'aurez constaté, durant ces 19 minutes d'intervention, c'est son Premier ministre.
Oui, c'est exact, absolument, vous avez raison. Il a cité, au moment de la commission d'enquête, en parlant des commissions d'enquête du Sénat, de l'Assemblée nationale, mais effectivement, il n'a pas, je suis en train de refaire le petit film, vous avez raison, il n'a pas cité le Premier ministre. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas?
C'est-à-dire que, si vous voulez, il a quand même mis beaucoup de pression sur son Premier ministre, souvenez-vous, dans ses différentes interventions, notamment concernant le déconfinement. Et il est assez net aujourd'hui que le Premier ministre, en tout cas une partie de l'opinion crédite le Premier ministre, d'avoir fait le job dans des conditions qui étaient des conditions pour le moins compliquées et difficiles. Le fait qu'il ne cite pas son Premier ministre peut être interprété par des esprits qui seraient mal intentionnés, comme finalement la volonté d'une certaine façon de tourner une page. Sauf qu'il y a un Premier ministre qui est assez fort dans les études d'opinion et c'est toujours extrêmement compliqué de se séparer d'un chef du gouvernement qui bénéficie d'un étiage de confiance important. Ceci dit, ça s'est déjà fait dans l'histoire. Souvenez-vous, François Mitterrand s'était séparé de Michel.
Tout va dépendre du soir du 28 juin. Savoir s'il est élu ou pas au Havre.
Oui, alors
pour le Premier ministre, ça va être la clé.
La clé du maintien, l'un des facteurs en tout cas clé, vous avez raison de le rappeler, du maintien du Premier ministre à Matignon, c'est son succès éventuel au Havre. Alors avec une situation d'ailleurs qui a changé sur le plan local, autant si vous voulez la situation nationale à la veille du premier tour était une situation qui était inconfortable pour Édouard Philippe parce que il était d'une certaine façon embourbé dans la question de la réforme des retraites, autant la situation nationale est devenue aujourd'hui, deux mois après cette crise, un élément favorable qui peut plaider en tout cas dans la, en faveur de la réélection d'Édouard Philippe dans sa bonne ville du Havre.
Oui, ça change beaucoup. Non, mais c'est assez, assez drôle, c'est de voir ce matin, Gérald Darmanin a été l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, et il rappelle souvent, moi j'ai été élu au premier tour. Vous voyez ce que je veux dire, donc il y a un côté, il y en a un qui n'a pas été élu au premier tour. Vous voyez, donc il se renvoie quand même un peu la balle entre Gérald Darmanin et Édouard Philippe.
Oui, alors qu'il y ait des éléments de concurrence éventuelle au sein de la majorité pour une accession potentielle à Matignon, ça fait partie du jeu politique.
Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, le plus important dans l'intervention du président de la République, c'est presque les deux premières minutes. C'est là où il a annoncé le déconfinement, le retour à l'école, où là, tout d'un coup, on a l'impression il veut que la page se tourne.
Alors,
vous avez raison.
Il y a plusieurs éléments, si vous voulez. D'abord, il y a une pression de la société. Il faut quand même considérer que le confinement, c'est quelque chose qui n'est pas normal pour une société. Une société, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle puisse circuler, qu'elle puisse échanger, qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse produire de la richesse, qu'elle puisse se divertir, qu'elle puisse débattre. Donc, cette pression de la société, le président de la République, il la sent comme tout un chacun. Le deuxième point, c'est que pour lui, c'était non seulement le moyen de clôturer un cycle, de clôturer une séquence particulièrement difficile, mais aussi, éventuellement, d'en recueillir un certain nombre de fruits positifs, c'est-à-dire qu'en effet il a pris sur lui d'annoncer quelques bonnes nouvelles, c'est-à-dire le retour notamment de la possibilité pour les cafés parisiens et les restaurants parisiens de réouvrir l'ensemble de leurs établissements, le retour à l'école.
Oui, mais ce que je voulais mettre, c'est peut-être en conclusion, c'est que c'est une manière pour le président de dire qu'il me reste 2 ans à faire quelque chose, je vais le faire, on va reconstruire le pays, donc pour ça, je veux dire, il faut dire que la page se tourne sur le plan de la crise sanitaire. Donc il a décidé que c'était terminé, quoi, après, grosso modo.
Oui, il a décidé, il a dit deux choses. Il a dit que les 2 ans qui restaient devaient être 2 années utile. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous allez me dire, n'importe quel président de la République dirait exactement la même chose. Mais il est confronté à une situation où il sait très bien qu'il doit aujourd'hui gérer les conséquences sociales et économiques d'un arrêt d'activité qui constitue quand même un fait assez unique dans l'histoire politique, économique et sociale de ces 30 dernières années.
Merci beaucoup. Merci. Arnaud Benedetti. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. C'est pour ça que vous avez insisté sur le côté parlementaire du discours du président. Et puis justement, dans un instant, on parlera, il l'a dit aussi, le président de la République, qu'il fallait revoir l'organisation de l'État. Et dans une note publiée en fin de semaine, le directeur des études de l'Institut Montaigne, Nicolas Bocquet, nous a expliqué qu'il y avait un problème de verticalité de la décision en France et qu'il fallait vraiment y remédier. Et justement, il est mon invité dans le RH d'ici quelques secondes.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Il est directeur des études à l'Institut Montaigne, Nicolas Bocquet, notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. En fait, vous avez publié, je le disais en fin de semaine, une note sur assez critique, sévère vraiment, sur l'action publique face à la crise du coronavirus, du Covid-19. Et ce qui montre bien, on l'a tous ressenti, c'est qu'en fait, il y a un problème de verticalité, de centralisation de la décision et du fait qu'on... tout vient d'en haut et on ne s'appuie absolument pas, notamment sur les citoyens, mais aussi sur les entreprises. Est-ce que là, vous dites au chef de l'État, banco, par rapport à son intervention d'hier, où il a dit il faut réorganiser en profondeur l'État. Là, vous dites... vous avez raison.
Absolument. Alors, il a dit plusieurs choses. Il a dit il faut réorganiser l'État et il a dit il faut faire confiance aux acteurs locaux, il faut faire confiance aux entreprises, il faut faire confiance aux collectivités locales, aux citoyens qui ont mis en œuvre beaucoup de créativité, beaucoup de réactivité face à la crise. Je crois que c'est le point essentiel. C'est l'articulation des deux. L'État a beaucoup fait. L'État a été capable de réorganiser très rapidement les hôpitaux, capable d'apporter une aide économique très rapide et très forte. Et de leur côté, les régions, les entreprises, entreprises se sont aussi mobilisées très vite. C'est l'articulation des deux qui a un peu manqué. Et c'est, je crois, le chantier qui s'ouvre aujourd'hui et qui a été clairement indiqué par le président de la République hier soir.
Oui, en même temps, hier, on recevait dans BFM Politique Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Hein, il disait souvent, on a appelé, c'est nous qui avons géré pour essayer de trouver des lits de réanimation ailleurs. On est passé un peu au-dessus de tout le monde pour pouvoir agir. Hein, donc, et d'où cette volonté, effectivement, du pouvoir local ou régional d'assumer plus de responsabilités.
Oui, alors assumer plus de responsabilités et trouver la bonne articulation avec le pouvoir central qui continue à avoir un rôle absolument essentiel. Dans tous les pays, on voit bien que le fait d'avoir un pouvoir fort, capable d'agir sur l'ensemble du territoire, c'est un élément tout à fait essentiel. Et on a des grands atouts dans notre histoire administrative. Et on a ces préfets, par exemple, qui ont un rôle absolument essentiel à jouer. S'ils sont capables d'agir davantage en lien avec les acteurs locaux, et pour ça, il faut aussi leur donner plus de responsabilités. Il faut, je dirais, ce qu'on fait beaucoup d'entreprises dans cette période de crise, raccourcir la chaîne de commandement et permettre à l'échelon supérieur de fixer une orientation claire et à ceux qui sont sur le terrain d'agir, de prendre des initiatives, de prendre des responsabilités.
Nicolas Boquet, comment vous avez travaillé ? Vous avez interrogé, je crois, une cinquantaine de personnes, enfin de personnalités, de chefs d'entreprise, de responsables politiques, administratifs. Et après, comment est-ce que vous avez progressé ?
Alors, c'est ça. La première étape, c'était d'écouter. On a commencé au début du mois de mai, dans une époque où, à un moment où on préparait le déconfinement. On en a beaucoup, évidemment, entendu nos adhérents. L'Institut Montaigne, nous sommes en lien avec nos entreprises adhérentes, qui sont une source extraordinaire de richesse, d'informations extrêmement riches. Et puis, avec, je dirais, toutes sortes d'interlocuteurs, depuis les cabinets ministériels jusqu'aux maires des petits villages, pour essayer de comprendre comment chacun avait vécu cette expérience. Et puis, on s'est beaucoup appuyé sur les comparaisons internationales. Comparaison des pays d'Asie orientale qui ont été confrontés en premier, qui ont été pour certains extrêmement efficaces. Je pense au cas de Taïwan, la Corée du Sud. Il y avait énormément de leçons à tirer. On en a tiré une note de l'Institut Montaigne. On a aussi travaillé sur les exemples européens. Et c'est d'être capable comme ça de remettre les choses en perspective qui peut nous permettre de tout d'un coup de voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Ça, c'est aussi à mon avis un aspect important dans la crise. C'est comment un État comme le nôtre peut apprendre des expériences étrangères, pas forcément vouloir réinventer à chaque fois un dispositif, mais être capable d'identifier dans tel ou tel pays les expériences réussies sur lesquelles il faut s'appuyer.
Oui, parce que vous avez fait un benchmark, hein, en fait. Vous
tout à fait, ça c'est absolument essentiel.
Oui, ça c'est bien.
Écoutez. Alors, les acteurs et regardez ce qui se passe autour de nous.
Quand on regarde, on essaie de regarder un peu l'organisation de la crise, la gestion de la crise, est-ce qu'elle était... Enfin, comment vous la jugez? Et après, on verra les conséquences qu'il faut en tirer, vous voyez ?
Oui, alors, il y a eu, je l'explique dans la note, il y a eu la succession d'une série de dispositifs de gestion de crise au niveau central pour répondre à l'urgence. D'abord à l'urgence sanitaire, donc une cellule de crise organisée au ministère de la Santé. Ensuite, organiser le confinement avec le passage à la cellule interministérielle de crise. Puis, organiser le déconfinement. Et là, ça a été le rôle de la mission Castex auprès du Premier ministre. Donc, une série de changements et peut-être un manque de transparence. C'est-à-dire un manque de clarté du lieu de la décision politique. J'ai une analyse des exemples à Taïwan ou en Allemagne, par exemple, où là, c'est vrai, une clarté sur le lieu où la décision est prise et est préparée. Et donc, des interlocuteurs pour les partenaires privés ou les collectivités locales qui savent, qui ont, je dirais, des canaux de communication rapides où ils peuvent faire passer leur message.
Oui, mais est-ce que tout simplement, c'est parce qu'en fait, justement, l'État ne s'appuie pas sur les collectivités locales, ni sur les entreprises, ni sur le privé, ni sur les citoyens. En fait, c'est ça. Moi, je trouve que le principal enseignement, on le savait, mais enfin vous le démontrez vraiment d'une manière assez forte.
Oui.
L'articulation du pouvoir.
Et le fait que l'État a changé. Donc l'État, a dévolu beaucoup de prérogatives. Il a changé sa manière d'intervenir en France. Il s'appuie beaucoup plus sur des agences, dont par exemple les agences régionales de santé.
Les fameuses.
Voilà. Ce qui fait qu'on est un petit peu au milieu du guet. On n'a plus cet État capable de s'appuyer sur l'ensemble de ses instruments à travers les préfets. Et on n'est pas non plus dans une relation davantage de partenariat avec les acteurs locaux, notamment les régions. Mais c'est ce qui a émergé pendant la crise. Et ça, c'est ce que moi j'ai découvert en faisant ce travail. Le fait que les régions aujourd'hui se coordonnent, le fait que les présidents de régions aujourd'hui se parlent toutes les semaines, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et le fait qu'il y a vraiment eu, que ce soit au niveau du ministère de l'économie, que ce soit au niveau du ministère des collectivités territoriales, un travail avec notamment ces grandes associations, les associations de maires, les associations départementales, les régions. Et il y a vraiment eu un travail collectif sur toutes les ordonnances qui ont été prises pour organiser la vie des collectivités territoriales pendant cette période, sur les plans de sauvetage des entreprises, sur les fonds.
Le plan aéronautique, ou même le plan automobile, tous les grands patrons ici même nous ont dit qu'ils avaient travaillé un peu d'une manière conjointe.
Absolument, donc il y a vraiment choses qui ont émergé dans cette crise, une manière de travailler plus en réseau, et de manière plus collaborative, et notamment avec les régions dans leur action de développement économique. Donc, la crise, elle a été un moment difficile, mais elle a aussi été un moment de grande mobilisation, de grande solidarité, et il y a eu des choses qui je dirais, il y a eu sur certains chantiers des déblocages qui se sont faits. Je pense à certains chantiers numériques, notamment au sein du ministère de la Santé, quand il a fallu en 3 semaines faire ce fichier SIDEP qui permet aujourd'hui de savoir exactement les résultats des tests auprès de 4500 laboratoires. On a fait ça en 3 semaines, et il aurait certainement fallu beaucoup de mois ou peut-être des années pour y arriver en temps normal. Il faut garder cette capacité-là, ce sens de l'urgence, ce sens de l'efficacité qu'on a eu ensemble pendant la crise, et aujourd'hui on doit l'avoir pour l'ensemble des politiques publiques pour arriver aux résultats qui nous permettront de faire face aux différentes crises dont a parlé le président hier.
Donc, si on vous écoute, il y a vraiment eu un avant et après crise. Hein. Vous me direz, c'est un peu logique vu l'immensité de cette crise sanitaire. Mais on va y revenir juste par rapport à l'Allemagne. Parce que justement, tout le monde est en train de se comparer à l'Allemagne. On voit même l'OCDE qui nous explique, même sur le plan de la santé, l'Allemagne était mieux organisée que nous parce que justement, c'était au niveau des Länder. C'est pour ça qu'ils ont pu... Et puis, il y a eu une remontée d'informations plus rapide. Si on essaie de faire une comparaison, Nicolas Bocquet, qu'est-ce que vous dites ?
Oui, alors, il faut se garder d'idéaliser d'autres systèmes. On a étudié justement cette réponse allemande dans le détail. Elle a eu aussi ses biais bureaucratiques. Le fait d'avoir un système décentralisé n'a pas que des avantages, notamment par rapport à la remontée des informations et des données. Mais c'est vrai qu'on a un système allemand qui a fait la preuve de son efficacité, parce que c'est un système qui fonctionne de manière moins verticale et plus en réseau. On le voit sur la question des tests. On a eu le Robert Koch Institute, qui est l'Institut de Santé Publique, qui a défini une doctrine. L'Université de la Charité qui a...
Oui, avec son gourou quand même, oui.
Voilà, qui a tout de suite, dès la fin du mois de janvier, donné au monde entier le premier test du Covid. Et puis, on a eu un tissu industriel qui a embrayé, qui existait, et ça c'est évidemment un atout majeur du côté de l'Allemagne, mais qui a embrayé de manière extrêmement décentralisée. Donc, c'est vrai que ce système-là a fait ses preuves et a permis d'être plus réactif sur le terrain, parce que notamment dans les premières semaines de la crise, où il est essentiel de capter les signaux faibles. Donc c'est vrai que quand on est dans un système où on définit un système et des doctrines pour les appliquer, on est peut-être moins capable de saisir sur le terrain la circulation du virus ou des éléments qui nous permettraient de nous dire il faut absolument adapter le système.
Il y a un point, et peut-être justement pour voir qu'est-ce qu'il faut en tirer comme enseignement important, si vous dites qu'il faut avoir des liens hiérarchiques en fait, qui soient beaucoup plus simples. En fait, il faut retirer, je sais pas, mais combien de couches. Enfin, il faut vraiment simplifier le processus de décision. C'est sans doute le...
Absolument. Encore une fois, raccourcir les chaînes de commandement, permettre que l'information circule plus vite et permettre que les niveaux inférieurs aient plus de marge de manœuvre. Là, il y a un élément tout à fait essentiel dont on a peu parlé jusqu'ici, c'est la question numérique. La grande leçon de la manière dont les pays, notamment en Asie orientale, ont réagi, c'est l'importance du numérique. Et là, c'est évidemment probablement quelque chose qui nous a manqué, à la fois pour produire très vite des données fiables sur la circulation du virus, pour l'organisation du système de soins et pour l'organisation de l'État en général. Et organiser l'État autour du numérique, c'est permettre d'élaborer ensemble les données, les informations, de les partager et d'être plus sur une gestion, sur un mode de gestion de projet, de mobilisation collective, d'avance plus horizontale. Donc le numérique aujourd'hui, c'est un instrument indispensable, mais c'est aussi l'outil pour transformer la manière dont l'État fonctionne.
Oui, c'est sans doute ça. Là, en fait, C'est presque le point, j'ai envie de dire, le plus important. En fait, c'est ce qui va permettre, parce que jusqu'à présent, le petit chef qui conservait son information, là maintenant, il ne peut plus la conserver. Donc ça met tout en mouvement. Quoi.
Et c'est un petit peu ce qu'on a vu. Hein. C'est un petit peu ce qu'on a vu, notamment sur les données de santé, c'est-à-dire le réflexe de ne pas partager la donnée. Ouais. Je pense notamment le fait de ne pas partager la donnée, les informations sur le virus avec les acteurs locaux. C'est très difficile pour les citoyens, pour les maires, de savoir comment le virus circulait, comme si cette information ne pouvait pas, comme s'ils n'avaient pas le droit d'en connaître, alors que c'est quand même leur responsabilité première que d'informer, rassurer ou mobiliser leurs concitoyens.
Et ben voilà, il y a peut-être cette fois-ci là aussi un monde d'après. Hein. Merci beaucoup Nicolas Bocquet d'avoir été avec nous, donc directeur des études à l'Institut Montaigne, et je vous recommande la lecture de cette note. Merci beaucoup.
En accès libre sur notre site.
En accès libre en plus. Merci et beaucoup. Dans un instant, c'est une économiste députée européenne. Elle porte un peu le New Deal, New Green Deal européen. C'est Aurore Lalu qui est notre invitée. Elle est députée européenne de Place Publique. Vous avez le mouvement de Raphaël Glucksmann. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invitée, elle est économiste, elle est en général discrète, mais de moins en moins. Aurore Lalu, merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, Place Publique, on va rappeler, donc c'est le mouvement de Raphaël Glucksmann. Vous venez de Génération, le mouvement de Benoît Hamon. C'est juste pour vous situer un peu. On va revenir sur le sujet qui vous importe, parce que vous travaillez beaucoup sur le Green New Deal, le plan de relance européen, comment ça doit s'articuler avec le plan français. Vous avez en plus signé une tribune où vous demander l'annulation d'une partie de la dette publique de la part de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est dire si vous êtes sur des sujets qu'on connaît bien. D'abord, Aurore Lalu, est-ce que lorsque le président hier a parlé d'une économie souveraine, écologique et sociale et solidaire, est-ce que vous dites, banco?
Ça aurait pu parler à beaucoup de monde, je crois, mais le problème, c'est que ça manque de concret, tout ça. C'est-à-dire que hier, Emmanuel Macron a utilisé un mot fort qui est celui de reconstruction, qui est un mot qui n'est pas neutre dans notre histoire. La reconstruction d'après-guerre, etc. Derrière ce terme, en France et au niveau européen d'ailleurs, il y avait des politiques très concrètes et très ambitieuses. La planification, l'arrivée du PIB, le produit intérieur brut, il arrive au moment de la reconstruction en 1944. Et là, on reste sur notre fin, c'est-à-dire qu'on n'a rien, on n'a pas plus que ce qu'il nous disait ces derniers temps, un plan pour l'hôpital, oui mais combien ? Pour les jeunes, combien ? C'est-à-dire que tous ces éléments-là, il en parle depuis le mois de mars, et là il arrive au mois de juin avec une copie un petit peu blanche où il nous dit je vais vous donner des précisions au mois de juillet. Non, on aurait eu besoin de précisions dès maintenant. Ensuite, je vais vous avouer que j'étais un petit peu choquée, je me suis sentie mal à l'aise par son exercice un peu d'auto-satisfaction sur la gestion de la crise.
Oui, on en a parlé justement dans le RH.
J'étais
difficile, oui.
J'étais très mal à l'aise, parce qu'on a quand même... On est un pays qui a été très, très impacté en termes de mortalité, tout simplement, dans un premier temps. La crise n'a pas été bien gérée. Donc, arriver tout de suite à la sortie de la crise et dire, regardez, tout va bien. Non, il faut faire un bilan, à mon avis, extrêmement sérieux de ce qui s'est passé au niveau de l'État, parce que je pense qu'on a perdu en compétences. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, et c'est pas sur cette chaîne que vous allez me contredire, les acteurs économiques ont besoin d'anticipation. Ils ont besoin d'être rassurés. Là, on sait qu'on va vers une crise économique et sociale majeure, donc il faut absolument donner des billes pour pouvoir rassurer les acteurs économiques. On ne pouvait pas dire cette fois-ci qu'on ne savait pas. Autant sur cette pandémie, il est possible de dire c'était quand même difficilement prévisible, etc. Bon, l'État n'a pas écouté les signaux, mais on pouvait dire que c'était difficilement prévisible. D'accord. Là, on le sait, on va avoir énormément de chômage, on va avoir un mur de la dette publique, un mur de la dette primée. Donc on aurait aimé avoir des éléments beaucoup plus concrets.
Je pense qu'on va peut-être les avoir avant le 14 juillet, le second tour des élections municipales. Parce qu'une reconstruction, oui, comme vous dites, j'espère qu'il a travaillé, puis c'est pas si évident que ça.
Non.
Mais en revanche, là où je vous suis pas complètement, c'est-à-dire qu'il a quand même justement en disant, allez, ça y est, maintenant on déconfine, ça va, faut passer à la page d'après, qui est la priorité de l'activité économique. Donc il dit aux chefs d'entreprise, allez-y, maintenant, c'est bon. Donc là, au contraire, il essaye de susciter cette confiance qui est si importante en économie.
Tout à fait, mais on a besoin en économie de faits. Il ne suffit pas de dire « allez-y », il faut que les carnets de commandes soient pleins. C'est ça qui guide l'économie aujourd'hui. Oui. Pour que les carnets de commandes soient pleins, dans une crise majeure, on est dans une crise qui est bien pire que celle de 1929, bien pire que celle de 2009. Tous les pays sont impactés. 2009, on perd au niveau mondial 0,1%. de PIB. Là, on est entre 6 et 7,5%. On ne va pas pouvoir compter sur le commerce international pour pouvoir se relancer. Ça veut dire que l'État doit jouer à plein de la commande publique. C'est l'acteur en dernier ressort qui est là quand il y a un souci pour pouvoir relancer l'économie et si possible vers la transition écologique.
C'est un point très important, vous venez de dire, Roland Luc, et j'en parlais avec Laurence Boone, qui est donc la chef économiste de l'OCDE. La question, je lui disais, mais la reprise, elle viendra d'où? Parce que d'habitude, la reprise, elle est venue soit des États-Unis, soit de la Chine. Mais là, elle ne va pas venir de la Chine ni des États-Unis. Et donc, c'est vrai qu'il faut que ça soit notamment, c'est l'Europe, par la France elle-même, qui génère cette reprise. Et c'est un peu la première fois qu'on se trouve dans ce cas de figure.
Totalement. On est vraiment dans un moment assez inédit, parce que comme vous l'avez parfaitement résumé, là, tout le monde est impacté et personne ne va pouvoir tirer finalement vers le haut un pays ou l'autre. Donc, il va falloir trouver des mesures totalement nouvelles. Et c'est pour ça que je pense qu'il va falloir faire montre de pragmatisme. Ces dernières années, vous savez, il y avait énormément de tabous en économie. Mmh. L'inflation, c'était mal. La dette publique, c'était mal. Etc. Et il va falloir casser tous ces tabous. On est en train de le faire. L'OCDE a commencé à le faire. Le FMI a commencé à le faire. La BCE aussi, en disant il nous faudra de l'inflation, par exemple. Ça, c'est nouveau. On n'entendait jamais ça au niveau européen. Entendre Christine Lagarde dire j'espère qu'on va avoir de l'inflation. Waouh. C'est déjà quelque chose.
Elle n'a pas dit ça complètement comme
elle
ça.
Elle l'a dit sur une matinale à un moment, dans une petite phrase, à dire j'espère qu'on aura même de l'inflation. Oui. Donc, il va falloir faire montre.
Et après, on lui a tapé sur les doigts.
Il va falloir refaire de la macroéconomie. En fait, pour de vrai. C'est-à-dire que ces dernières années, on a fait de la politique, très politicienne en fait, à travers, en brouillant les pistes, à travers beaucoup de technicité qui faisait que les citoyens n'avaient pas pris sur les décisions qui étaient faites. Aujourd'hui, on a besoin de refaire de la macroéconomie et d'être vraiment très pragmatique dans les solutions à apporter. Et les seuls qui vont être en capacité de gérer cette crise, ce sont les institutions publiques. Au niveau national, et au niveau supranational, on pense évidemment à l'Europe.
Et justement, vous qui êtes économiste de formation, enfin qui êtes économiste, Aurore Laluc, si votre mandat de député européen vous laisse un petit peu de temps, qu'est-ce que vous pensez de ces comités économiques qui se sont créés autour de Bruno Le Maire à Bercy, autour donc avec Olivier Blanchard, autour de du président de la République? Est-ce que c'est utile, ça sert à quelque chose?
La difficulté, c'est que je trouve que le comité tel qu'il est constitué est sur une ligne très idéologique. Très idéologique. Et ce ne sont pas. C'est-à-dire que Jean Tirole, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un, par exemple, qui ait prévu une quelconque crise. Mmh. Tout simplement.
Oui, c'est un peu le problème des économistes. J'allais vous renvoyer la balle.
Je serais tentée de dire. Alors, on est vraiment une profession beaucoup trop surcotée, à mon avis. Ça, c'est clair. Il faut faire comme Keynes disait, les politiques doivent être au volant et les économistes sur la banquette arrière. Il faut remettre les économistes à leur place et dire que ce sont des techniciens.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'échelle d'entreprise au volant, non, peut-être?
Non, la politique.
Oui, d'accord.
La politique. On est quand même en démocratie, donc c'est important que les élus soient aux commandes et les économistes sur la banquette arrière et face de la technique. Là, je suis pas très rassurée par la composition de ce comité, qui est un comité composé majoritairement de personnes qui n'ont jamais prévu une seule crise et qui n'ont jamais été même en capacité de proposer une quelconque solution pour pouvoir trouver des solutions aux crises. Il y a des économistes qui avaient prévu la crise de 2008, de 2009. Certains ont été en capacité de prévoir ce qui allait se passer aujourd'hui. C'est eux qu'il faudrait utiliser, à mon
Stiglitz,
avis.
Stiglitz, vous faites penser,
Je pense à Stiglitz, je pense aussi à des moins connus. Je pense au CEPR de Washington, par exemple, à Dean Baker, qui avait prévu dans les moindres détails l'arrivée de la crise économique. Et il ne l'a pas prévu en termes grand soir. Il a été en capacité de décrypter absolument tous les mécanismes. C'est ce type de personnes qui nous faudrait aujourd'hui, c'est-à-dire des gens plus techniciens qu'idéologues.
Je souris, même si le sujet est effectivement assez inquiétant, mais c'est parce que je reçois la semaine prochaine le professeur Philippe Aguillon, que vous connaissez bien, et puis Jean Pisani-Ferry, ça sera intéressant, je vais leur faire écouter votre réponse hors la lutte pour savoir ce qu'ils en pensent. Alors maintenant, ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'articulation entre la France et l'Europe, d'accord ? Sur la France et l'Europe, il y a un de relance. Hier, le président de la République a dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'est passé. C'est qu'on a travaillé depuis longtemps pour rétablir ce couple franco-allemand. C'est la mutualisation des dettes. C'est-à-dire qu'enfin, il y a quelque chose en commun et ce n'est pas une juxtaposition de pays. Là, vous êtes d'accord avec lui,
Alors, je suis d'accord sur il y a eu des vraies avancées, c'est indéniable. Mm-hmm. C'est-à-dire que compte tenu en plus de là où le gouvernement allemand partait hein, pendant au plus fort de la crise. C'était pas très rassurant. Il faisait pas montre d'une très grande solidarité budgétaire, notamment. Donc, on s'inquiétait vraiment sur l'avenir de l'Europe. Des pas ont été décisifs, faits par l'Allemagne, notamment en disant on ne pourra pas se sortir seul de la crise, en acceptant effectivement l'idée de mutualisation. Après, le sujet, c'est le montant. C'est-à-dire qu'on va partir, c'est un plan de 750 milliards, là-dessus finalement on va en prendre 500 milliards. Sur un budget pluriannuel européen, ça nous fait finalement du 0,5 à 0,6% du PIB. C'est très, 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 très peu.
Et 30 milliards pour la France. Hein,
c'est 39, ouais. C'est très, 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 très peu. Et c'est ça le sujet. Et donc, là, tel que c'est parti, cet outil-là ne nous permettra pas de trouver, d'être une solution efficace à la crise. Et ce qui compte, en fait, c'est ça. C'est à chaque fois de se dire, est-ce que l'outil que nous proposons, est-ce que la politique que nous proposons permet de résoudre la crise ? Celui-là ne le permet pas. C'est un élément, mais il ne le permet pas. Et c'est pour ça que nous, avec plusieurs économistes, nous prenons l'annulation d'une partie des dettes publiques détenues par la Banque Centrale Européenne. Nous proposons aussi une monétisation de la dette pour pouvoir libérer un maximum la contrainte budgétaire sur les États pour qu'ils puissent justement investir et relancer l'économie.
Alors vous dites que c'est une tribune que vous signez dans Le Monde avec différents économistes, que la Banque Centrale Européenne, elle devrait dès maintenant annuler une partie de ses dettes publiques, je vous cite, qu'elle détient. Donc ces dettes publiques, elle, attention, rachetées depuis 2015 uniquement par la Banque Centrale Européenne. Ouais. Donc c'est 2320 milliards d'euros. Mais ce n'est pas celle qui est détenue par les banques. Hein. C'est uniquement celle qui est détenue par les États. Comment est-ce que vous faites? Parce qu'aujourd'hui, on est tous un peu en train de se dire un tour de passe-passe. Finalement, la dette publique, elle va disparaître. Vous êtes jeune, c'est peut-être vous qui allez porter cette dette publique.
Mais en fait, le problème de la dette publique, c'est que c'est une dette qui ne se porte pas sur les générations à venir, finalement. Mais ça a souvent des conséquences sociales et économiques sur le présent, sur les générations qui sont actuellement sur le marché du travail, par exemple. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut absolument annuler une partie de ces dettes, déjà parce que la Banque Centrale Européenne le peut. C'est de la monnaie centrale. Hein. On est sur un...
Mais ça veut dire quand il y a un moment, cette dette, ces milliards, ils sont bien quelque part. C'est pas uniquement un exercice d'écriture.
Eh bien, si. C'est un exercice d'écriture et c'est ça qui est fantastique.
Ah, c'est là où vous nous faites rêver, mais bon, étant un peu économiste, moi aussi, ça me paraît bizarre quand même.
C'est pas du rêve, mais les banques privées, elles, ont un vrai devoir de devoir rembourser, etc., leurs dettes, ça c'est sûr. Côté banque centrale, là on est beaucoup plus effectivement dans le jeu d'écriture et s'il y a bien une institution qui peut se permettre d'annuler les dettes, c'est bien elle, parce que ça, son seul objet, sa seule raison, pas raison de vivre, mais ce qui lui permet de vivre, c'est la confiance. Si elle perd la confiance, là, par contre, il y a un sujet. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on pourrait totalement annuler une partie des dettes de la Banque Centrale Européenne si, à un moment, on arrive à avoir un dialogue qui soit moins passionné sur les questions monétaires. Et c'est vrai que jusqu'à présent, avec le gouvernement allemand, notamment, ça a été difficile.
Oui, mais en même temps, qui par exemple, l'État français émet, et Dieu sait qu'il le fait en ce moment, émet une dette, un emprunt, ben derrière, qu'est-ce qu'ils achètent? C'est les Français pour leur assurance-vie. Donc, quoi, vous dites aux Français, vous faites une croix dessus, qu'est-ce que vous voyez que...
Non, pas du tout. Au contraire, l'idée, c'est de pouvoir libérer une partie de l'endettement de la France à travers la Banque Centrale Européenne.
Mais qui a acheté cet endettement?
Pour qu'elle puisse... Il y a une partie qui a été rachetée justement par la Banque Centrale Européenne à travers les politiques de quantitative easing in fine. Donc, c'est tout ça qu'il faut revoir. Là, le souci qu'on a dans cette crise-là et dans les crises précédentes au niveau européen, c'est qu'en fait, on passe trop par les banques. Et c'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'en 2008, le problème, c'était les banques. Là, on nous dit...
Là, c'est une crise de marché. Là, c'est une crise sanitaire.
Là, c'est une crise sanitaire qui a un impact sur l'économie réelle, qui va avoir un impact sur les banques. Là, on passe à chaque fois par les banques. Sauf que le problème, c'est qu'on joue à chaque fois sur de l'endettement. Là, on aurait besoin d'argent frais, puisque la Banque Centrale Européenne nous le rappelle. On a une très grande partie, un quart à un tiers des entreprises européennes qui n'ont pas 2 mois de trésorerie devant elles. Comment vont-elles faire pour pouvoir rembourser ces prêts? Je trouve qu'au niveau européen, en fait, à chaque fois qu'on débourse de l'argent, on passe par du prêt. Et ça commence à devenir un vrai souci, parce qu'on va avoir un mur de la dette publique et un mur finalement de la dette privée. Il faut pouvoir...
On l'a.
Il faut pouvoir un maximum libérer finalement certaines contraintes budgétaires à la fois sur les États, mais aussi sur les entreprises. C'est pas une dette commune, l'endettement qui est actuellement fait. C'est pas de l'endettement pour pouvoir lancer une activité, pour pouvoir investir, etc. C'est l'endettement pour pouvoir survivre. C'est de la compensation pure et ça, c'est très très difficile.
Pas pour la dette privée, pour la dette publique détenue par l'État.
À rembourser, mais pour la dette privée aussi. Certains acteurs privés ont dû s'endetter pour pouvoir continuer juste à maintenir l'activité à flot. Donc ça, c'est un vrai sujet.
Est-ce que justement, et je sais que vous regardez beaucoup cette question, Roland Luc, est-ce que vous êtes inquiet sur l'état de santé des banques? Parce que vous faisiez comparaison avec 2008, où on sait qu'il y a eu des crises, mais maintenant les banques s'en sont sorties, ont remboursé, faut pas l'oublier, les prêts qu'on leur avait consentis. Mais là, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque bancaire?
Il y a un vrai risque bancaire.
Sur quoi? Pourquoi?
Alors tout simplement parce que pour l'instant, les règles prudentielles qui avaient été créées ont été créées au moment de la crise de 2008. Oui. Donc elles étaient faites pour gérer une crise de ce type. Là, on en a parlé, on est dans une crise absolument exceptionnelle. Il y a deux chiffres qui nous disent qu'il y a un souci. Le premier, c'est que les régulateurs européens ont dit attention, il y a 5% de probabilité que deux établissements systémiques, donc des banques de très grande ampleur, fassent défaut. Ça paraît rien. Au plus haut de la crise, en 2008, on était à 15%. Le problème, c'est que ce pourcentage monte très, très vite là, en ce moment. Ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, c'est que si 21% des emprunts ne sont pas remboursés, alors les banques n'ont plus de fonds propres. Et ça, c'est un vrai...
Quels emprunts, j'ose dire, enfin, quels emprunts?
Les emprunts que les ménages, les entreprises, etc. ont pu faire. S'il y a, en fait, une augmentation des prêts non performants, c'est-à-dire que si les gens ne sont plus en capacité de rembourser leurs prêts, alors leur coussin d'épargne en cas de problème, finalement, pour résumer un petit peu la situation, que les fonds propres que les banques ont pour pouvoir gérer les crises risquent de disparaître. Et ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. C'est-à-dire que là, c'est pas les banques, finalement, qui vont créer la crise, mais on risque d'avoir une contamination de l'économie réelle vers le système bancaire. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut trouver des solutions pour que la Banque Centrale Européenne puisse notamment alimenter directement les États plutôt que passer par les banques. Il va falloir les protéger en fait à un maximum.
Je reviens sur ce Green New Deal parce qu'il est insuffisant, vous nous avez dit, et puis après on est parti effectivement sur la question de l'annulation ou pas de la dette par la Banque Centrale Européenne. Sur ce Green New Deal, est-ce que quand même, vous pensez que on va vers une économie qui sera beaucoup plus écologique, justement, qui sera beaucoup plus verte. Là, il y a une vraie volonté au niveau français et au niveau aussi européen.
Pour l'instant, on a une volonté dans les mots. Ça, c'est sûr. Oui. C'est quelque chose d'important. Je ne le nie pas. Je ne nie pas qu'il y a un vrai changement de logiciel intellectuel au niveau de la Commission européenne, etc. Ça, c'est sûr. C'est ancré maintenant la nécessité d'avoir une transition écologique. Maintenant, la vraie difficulté, ça va être le montant. Et à chaque fois, c'est là que ça pêche. Au niveau européen, la Cour des comptes européenne nous dit qu'il faudrait 1115 milliards par an. Le Green Deal européen, c'est 1000 milliards sur 10 ans. Donc, il y a un vrai souci quantitatif. C'est dommage parce que même pour l'économie, enfin surtout pour l'économie et pour l'emploi, ce seraient des plans qui seraient essentiels de mettre en œuvre aujourd'hui parce qu'on sait que tous les gisements d'emploi aujourd'hui sont dans la transition sociale et écologique.
Oui, et numérique aussi. Oui.
Dans les renouvelables, dans le plan d'isolation des bâtiments. Il en a parlé hier, Emmanuel Macron.
Absolument.
Là aussi, on attend des chiffres. Hein. On a 97% du bâti européen à refaire, public et privé. Donc, le chantier est énorme. Et là, par exemple, typiquement, en termes de relance, on aurait quelque chose qui ferait parfaitement sens d'un point de vue de la transition écologique, de l'emploi et de l'économie.
Mais enfin, il y a quand même quelque chose. Enfin, il y a une prise de conscience en tous les cas.
Il y a une vraie prise de conscience, c'est sûr. Après, la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est que cette prise de conscience est un peu rognée quand même. En cas de crise, on a toujours tendance à revenir sur ce qu'on savait faire avant. Et on a bien vu là, au niveau européen, j'étais assez bien positionnée pour le voir, que les premiers réflexes sont venus, notamment de certains pays de l'Est, en demandant de revenir. Voir les ambitions d'un point de vue environnemental.
Les Polonais qui vivent dans l'économie reposent sur le charbon. Même les Allemands, oui.
On a vu, c'est vrai que c'est venu beaucoup des Polonais et des Hongrois. On a vu aussi beaucoup de lobbies. Ça c'est vrai, demander plein de rogner finalement sur certaines directives européennes, notamment dans le domaine du plastique, etc. Bref, immédiatement en fait, la question environnementale a été prise de front, alors que c'est vraiment la solution à la crise économique et sociale que nous avons.
Aurore Laluc, puisque vous venez de Génération, le mouvement de Benoît Hamon, le revenu universel, c'est quelque chose auquel vous continuez à croire?
C'est pas une question de croire.
Enfin, croire, vous préconisez.
Moi, je préconiserais plutôt dans le cas de la crise actuelle de la monnaie hélicoptère sur un temps court, c'est-à-dire le fait que la Banque Centrale Européenne, ce qui n'est pas interdit par les traités, puisse financer directement les ménages et les entreprises pour justement libérer de la contrainte budgétaire. Mais sur un court terme, hein, on n'est pas obligé de faire ça longtemps, mais faire en sorte que justement tout le monde ne sombre pas dans la crise. Et ensuite, je serais plutôt en faveur d'un mécanisme d'employeur en dernier sort vu le contexte actuel. C'est-à-dire s'inspirer finalement de ce qu'ont fait les Américains sous Roosevelt, de ce que font les territoires zéro chômeur et de ce que propose une partie des démocrates américains.
Et sur le chômage partiel, est-ce qu'il faut revenir? Il y a toute une polémique depuis ce matin avec Darmanin qui dit qu'il faut baisser le montant des indemnisations, le ministère du Travail qui dit non, on n'y touche pas, etc., etc. Il faut maintenir le chômage partiel tel qu'il existe aujourd'hui?
Il faut maintenir, mais par contre, il faut proposer à côté de ça des plans ambitieux en matière d'emploi. C'est-à-dire que là, ça veut dire qu'il nous faut encore une fois avoir un chiffrage très clair sur la dépense publique en termes de transition écologique pour savoir sur quoi les entreprises vont pouvoir compter pour pouvoir relancer l'économie. Et il nous faut une garantie de l'emploi dans le domaine de la biodiversité pour les plus jeunes d'entre nous parce que la crise va les impacter de manière très disproportionnée.
Merci beaucoup Aurore Laluc d'avoir été avec nous, je le rappelle, économiste, députée européenne Place Publique, mais qui siège donc social-démocratie.
Social-démocrate.
Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain à 8h45. Je recevrai Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, et puis bien sûr le retour de l'orage 12h-13h. D'ici là, très bonne journée.